Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis docteur Jacques Jaume, je produis, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme Votre santé un trésor. Nous recevons encore aujourd'hui le docteur Marc Fréard qui est acupuncteur. Bonjour à vous Marc Fréard, nous vous connaissons bien à présent puisque nous sommes à la troisième émission et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci Jacques, bonjour à tous.
Alors, nous allons évoquer aujourd'hui votre unité d'acupuncture au CHU de Nîmes. Cette unité d'acupuncture fait partie du pôle AMIE, activité médicale guidée par l'imagerie exploration fonctionnelle, ou encore service des troubles du sommeil d'acupuncture. Hein, bon. Les médecins acupuncteurs est une spécialité en médecine chinoise. Je crois que vous êtes deux à travailler, vous nous l'avez
tout à fait
dit. Traite en consultation externe des patients atteints de maladies chroniques, intégrant des thérapies complémentaires et interventions non médicamenteuses validées dans une démarche globale de soins. Les données concernant sont soins oncologie, de support, troubles du sommeil, migraines, céphalées chroniques, troubles anxio-dépressifs. Je ne peux m'empêcher, en évoquant le service d'acupuncture à Nîmes, de penser au professeur Jean Bossy qui a fait entrer l'acupuncture à la faculté de médecine Montpellier-Nîmes et au CHU de Nîmes et qui, dans son service, m'avait donné la possibilité de créer ma première consultation de sophrologie au CHU de Nîmes. Le professeur Jean Bossy, par son ouverture d'esprit et sa quête permanente dans la recherche et la transmission de son savoir, a permis à la médecine traditionnelle chinoise de s'intégrer à la médecine occidentale en lui apportant une reconnaissance officielle universitaire. Il a posé la première pierre sur laquelle a pu se construire l'édifice actuel de l'enseignement, d'abord à l'AFERA, A-F-E-R-A, qui veut dire l'Association Française pour l'Étude et la Recherche en Acupuncture, officiellement constituée le 19 novembre 1975. C'est aussi à la même période que le professeur Jean Bossy met en place dans son service une consultation de réflexothérapie, on ne disait pas encore acupuncture, à l'hôpital de Nîmes, rue Hoche, ce qui a permis la mise en place du diplôme universitaire en 1985. C'était une grande avancée. Puis interuniversitaire pour aboutir à la capacité d'acupuncture actuelle. Seule formation reconnue par le Conseil national de l'Ordre des médecins permettant l'exercice de l'acupuncture. Il fut l'initiateur dès le début de l'Internet, de la banque de données Acubase de la Bibliothèque universitaire de Nîmes et qui a confié un nombre inestimable de revues. Rappelons ici que c'est le 12 octobre 1924 que le président Gaston Doumergue a posé la première pierre de nouvel hôpital qui va porter son nom. Le transfert des malades a lieu en 1934, 10 ans plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale. Le pavillon A de l'hôpital Gaston Doumergue, occupé par les Allemands et détruit le 27 mai 1944, comme plusieurs édifices de la ville, sous les bombes de l'aviation américaine. 55 personnes malades, personnel soignant et médecins sont tués. Je ne pouvais pas ne pas l'évoquer ici. En 1971, le CHR de Nîmes devient CHU par la signature d'une convention avec l'unité d'enseignement et de recherche de médecine de Montpellier afin de répondre aux besoins de formation clinique des étudiants dont le nombre a augmenté de façon exponentielle. Cette convention bipartite est remplacée en 1975 par une convention tripartite associant le centre hospitalier de Montpellier. Actuellement, le site de l'hôpital Gaston Doumergue et son ancienne chapelle est réhabilité en un campus moderne et fonctionnel. Daté des années 1860, l'ancienne chapelle du site universitaire Rue Hoche rayonne à nouveau avec la pose réussie de son dôme en 2025. Je suis moi-même acupuncteur et j'ai réalisé l'ensemble de mes stages dans ce service qui se trouvait au rez-de-chaussée au sein des anciens bâtiments qui sont toujours debout alors que le CHU dans son grand ensemble a été rasé. Rappelons aussi que l'acupuncture a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2010. Depuis sa pratique et son enseignement font l'objet de recommandations de bonnes pratiques et d'usage de l'acupuncture. Et Marc, lors d'une précédente émission, nous a dit que l'OMS avait récupéré et inscrit la nosologie chinoise. Alors pouvez-vous, après ce long présentation, mais je ne pouvais pas y échapper parce que Nîmes et Jean Bossy ont été quand même très importants pour le rayonnement de l'acupuncture, dans un premier temps nous parler de et nous décrire la genèse de votre unité d'acupuncture qui intègre le pôle AMI.
Oui, alors, vous connaissez mieux l'histoire que moi, mais je sais que j'ai hérité de tout ça. On a hérité d'une unité.
Oui, qui vous continuez cet héritage, c'est très bien.
Qui est intégrée vraiment donc, au Pôle Ami. Donc, ça veut dire que, oui, alors, le service a été créé à la fin des années 70, les formations universitaires dans les années 80. Donc, j'ai hérité de l'unité, aussi des formations universitaires qui perdurent. Et donc, l'unité est un lieu d'accueil pour les patients, bien sûr, mais aussi pour les étudiants et donc historiquement intégré au pôle qui relève de l'exploration fonctionnelle, notamment du système nerveux, puisque le professeur Jean Bossy était neuroanatomiste.
Hein, voilà, donc, c'est ça, il était patron, enfin, pour l'évoquer, il était. C'est un médecin militaire qui avait fait ses études et qui était professeur, qui était devenu professeur d'anatomie à titre personnel à la faculté de médecine de Montpellier. Et donc, il travaillait à Nîmes, hein, puisqu'il habitait dans un village proche de Nîmes. Et il a créé vraiment un service de réflexothérapie. Et c'est au rez-de-chaussée. Il a commencé très peu, puis il y avait 4-5 salles d'acupuncture. Alors, pour l'acupuncture, c'est la douleur qui l'a amené à l'acupuncture, parce que on lui a demandé, il était neuroanatomicien, plus spécialisé dans la neuroanatomie. Moi, j'ai préparé ma maîtrise de biologie humaine avec lui, avec un certificat d'études supérieures en neuroanatomie. Et il s'est intéressé à la douleur, puisqu'il a été un des fondateurs de la consultation de la douleur et donc du centre antidouleur de Nîmes. Et on lui a dit, l'acupuncture est une très bonne démarche. Et alors, il s'est intéressé à l'acupuncture par rapport à son intérêt à la douleur. Et donc, il a créé un service de réflexothérapie. Il a mis beaucoup de bases sur la réflexothérapie. Il a fait de l'oculothérapie, etc., etc. Et nous, dans notre cursus, par exemple, il demandait 2 unités de valeur. En plus de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il y avait l'enseignement universitaire qui est donné, puis il fallait faire 2 unités de valeur en dehors de la faculté, en rapport avec ça. Alors moi, je préparais l'algologie, donc il avait acquiescé, puisque c'était un rapport, et puis j'avais fait un travail de recherche en neuroanatomie de douleur. Donc voilà, donc il était quand même la base, mais donc il a des élèves qui ont continué, et vous continuez son œuvre, donc c'est quand même très intéressant. Le CHU n'a pas coupé, il n'a pas... Le CHU aurait pu dire, non, moi ça ne m'intéresse pas, Monsieur Bossy est en partie, on arrive, mais non, ça a continué, donc il y a eu... Et c'est quand même très important pour les patients, et je trouve que c'est bien. Alors, il a créé la FERA, qui était une association de médecins qui étaient intéressés, avec des gens comme le docteur Morel, Lafont, Daniel Doroc. Oui, alors là, je sais que le docteur Lafont fait toujours des cours à la capacité. Malheureusement, Daniel Doroc nous a quittés. Il m'a fait avec des personnalités qui ont... Daniel Doroc était mon maître de mémoire. Hein, c'est lui qui m'a aidé pour mon mémoire. Donc vous travaillez, vous continuez donc cette œuvre d'une manière importante, aussi bien au niveau pratique médical qu'enseignement, que recherche, donc il y a une continuité.
Et cette continuité, cette implantation, c'est ce qui nous permet aussi maintenant d'avoir de nombreuses collaborations avec nos collègues du CHU qui connaissent bien aussi la présence de cette unité.
Bon, mais c'est très bien. Alors, on a dit dans la précédente édition que vous étiez 2 médecins, donc vous êtes... Le patron de l'unité acupuncture, vous êtes plein temps, donc aussi en pratique médicale acupuncturale qu'en recherche. Et puis maintenant, vous avez une médecin dame qui vient vous aider à mi-temps.
Oui, on a une jeune collègue qui s'inscrit dans les activités à temps partiel, mais qui s'inscrit dans les activités de notre service. Elle est aussi formée notamment à la méditation en pleine conscience, ce qui fait qu'elle amène aussi d'autres pratiques d'intervention non médicamenteuse dont nos patients peuvent bénéficier, à la fois les patients pour les troubles du sommeil avec mes collègues et aussi d'autres indications avec nos patients, le patient de notre propre unité.
D'accord. Et est-ce que, par exemple, ça c'est pour... est-ce que lors de la séance d'acupuncture, elle fait des méditations de pleine conscience ou ces deux choses, elle fait l'une et l'autre?
On a clairement différencié les deux parce qu'on a des groupes de patients, donc il y a des dates précises pour créer des groupes, donc voilà, ça fonctionne comme ça. Et elle a un rôle aussi important pour moi parce que, comme je vous disais, on mène de la recherche clinique, donc c'est important aussi, elle permet d'être présente pour la continuité de certains protocoles de recherche quand je suis absent.
Oui, et puis quand on est deux quand même, il y a une...
Donc on est en étroite collaboration, et tout à fait, et dans l'échange, oui.
Alors, la question quand même de cette unité aussi, quelles sont actuellement les relations entre les acupuncteurs, l'acupuncture et les autres disciplines médicales au sein du CHU?
Bah, on a de très bonnes relations, notamment bah, pour les indications les mieux connues, validées. On travaille en étroite collaboration avec eux, c'est-à-dire que les patients sont adressés souvent par le centre anti-cancer, donc par l'ICG, et notamment par les soins de support, les médecins des soins de support, l'infirmière des soins de support qui communique directement avec nous, qui nous transmet les dossiers. Ils sont aussi adressés directement très souvent par le centre de prise en charge de la douleur pour les douloureux chroniques, les gens qui ont des céphalées chroniques. Donc cet échange, voilà, on a un échange direct avec un parcours de soins, on va dire, coordonné dans le cadre d'une prise en charge globale,
très souvent. Et les services, plus classiques comme la cardiologie, tout ça, vous rappelle des fois à vous
ou... J'ai moins d'échanges, il y a beaucoup de spécialités avec qui j'ai moins d'échanges directs.
Ils ne connaissent pas peut-être les indications
aussi. Les indications sont peut-être moins solides aussi, il faut le dire.
Oui.
Et puis l'usage peut-être un peu plus périphérique, donc il y a aussi d'autres... Voilà, je pourrais dire les neurologues travaillent avec nous, mes collègues du sommeil travaillent avec nous. Les gynécologues, on a un parcours un peu plus gynécologie.
Aussi, Alors, comme on disait aussi, en gynécologie, il y a une particularité parce que les sages-femmes, alors comme on est pour qu'il y avait très peu de sages-femmes qui étaient formées, que ce soit en sophrologie, en méditation ou en acupuncture, elles se forment de plus en plus et donc il y a des sages-femmes qui font beaucoup d'acupuncture. Donc, automatiquement, les médecins acupuncteurs sont moins présents. Quoi, hein. Mais moi, j'ai connu le temps où on m'appelait en maternité, notamment à la maison de santé, pour faire l'acupuncture. Quoi, hein. Donc, mes sages-femmes n'étaient pas formées. Maintenant, c'est pas le cas. Elles sont bien, bien formées et elles ont un diplôme spécifique.
En tout cas, ces relations se développent parce qu'il y a vraiment un intérêt pour les interventions non médicamenteuses. Je pense que l'acupuncture fait partie des méthodes certainement les plus efficaces et au spectre d'indication le plus vaste dans ce domaine. Et donc, beaucoup d'autres spécialistes cherchent un moyen efficace, sans alourdir le traitement, de pouvoir soulager leurs patients.
Oui, un problème qu'on n'a pas évoqué mais qui est fondamental, c'est que l'acupuncture, c'est pas cher.
C'est un aspect.
Donc on en parle maintenant que le prix, ça a toujours été un problème, maintenant ça devient crucial, avec des dérives qui font peur à certains médecins, mais l'acupuncture c'est pas cher, c'est les honoraires de... Bon, les aiguilles c'est pas très cher, et c'est les honoraires du praticien, quoi. Donc c'est pas... Alors que dans certaines médications, c'est les honoraires du praticien et puis le coût de l'ordonnance. Donc,
Il y a beaucoup d'arguments pour... Le coût est faible, la simplicité de mise en œuvre, c'est très simple à mettre en œuvre, et puis il y a très peu d'effets secondaires. Donc tout ça sont des arguments très importants pour le développement de l'acupuncture.
Et c'est pour ça que je voulais faire des émissions sur l'acupuncture. Je vous propose une trêve musicale avec une musique dite « Mélodie du Tao ». Thank you. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Marc Fréard. Si je suis patient, que je veux me faire soigner par acupuncture, par vous, comment dois-je faire ?
Alors, le plus simple déjà, c'est de passer par son médecin traitant ou le médecin spécialiste en rapport le plus direct avec la demande pour avoir un courrier initial. Et ensuite, on passe par le service, donc on passe par notre secrétariat ou la demande par email qui nous permet de trier un petit peu les demandes. Et après, donc on planifie une série de séances qui va me permettre de faire à la fois mon évaluation initiale et derrière, tout de suite, de pouvoir proposer le début du suivi s'il doit y en avoir un. Après, on modifie après quand je connais le patient.
Sans lettre, on ne peut pas taper à votre porte. Il faut une lettre.
C'est possible, c'est pas impossible, mais c'est quand même fortement
je vous dis ça
recommandé.
Parce que ça arrête beaucoup de patients. En fait. Moi, ils me le disent. Ils me disent il faut une lettre. Je dis je sais, maintenant, c'est la lettre. Donc, parce que les médecins traitants disent mais non, vous n'en avez pas besoin. Non, parce qu'évidemment, ils ont peur de perdre le patient.
Mais il faut comprendre que
ils leur donnent un travail administratif qui les embête. Donc, c'est la lettre.
Bah, on insiste auprès des secrétaires pour qu'elles le disent aux patients parce que ça nous permet quand même de travailler de manière plus vite et plus efficace.
On comprend tout le monde. On ne
joue pas aux devinettes avec le patient, il a un dossier, on sait pourquoi il vient.
En fait, n'importe quel médecin peut le faire, ce n'est pas forcément le médecin qui suit le patient, ça peut être aussi un médecin mais qui le connaît quand même, hein. Peut être un spécialiste, ce n'est pas forcément le médecin général.
Non, c'est très souvent, c'est le plus souvent, dans le cadre dans lequel on travaille, c'est le plus souvent un médecin d'une autre spécialité, algologue, oncologue.
Et est-ce qu'il y a des médecins de ville qui vous adressent
Tout à fait, oui, il y a quand même des gens qui travaillent régulièrement avec nous. Je ne les connais pas tous personnellement, mais je commence à voir les noms passer, donc je sais qu'il y a des gens qui travaillent.
D'accord,
avec nous.
Donc des praticiennes de ville, du département ou que de Nîmes ?
Oui, j'ai des demandes un petit peu. Ça dépasse la ville, quoi, des fois. Et puis on est quand même un centre un peu expert, donc je donne parfois des avis pour des gens qui sont très loin. J'ai parfois des collègues qui me demandent un avis sur un patient.
Des acupuncteurs qui vous demandent un avis.
Oui, des collègues, je peux citer des collègues à Toulouse. J'ai travaillé beaucoup en Bretagne, donc j'ai aussi des communications avec quelques-uns de mes collègues bretons qui me restent.
Vous êtes au CHU, mais est-ce que par exemple l'hôpital d'Alès a une consultation d'acupuncture de Bagnols ? Enfin, je ne sais pas.
Tout à fait, donc il y a une unité de médecine chinoise à Alès où on peut recevoir les soins également.
Il n'y a pas que Nîmes, quoi. Je veux dire, il y a Alès, Bagnols.
Bagnols, pas à ma connaissance. On a des collègues installés en ville qui ont passé la CAPA, en termes de structure
hospitalière. Il y a des acupuncteurs en ville aussi, puisque vous les connaissez, vous les avez formés.
Bien sûr, il y a aussi possibilité d'avoir un relais en ville.
D'accord.
Même s'il y a eu des départs en retraite quand même
il y a eu beaucoup
de quelques-uns récemment.
Les acupuncteurs ont fondu,
On a de nouveaux collègues qui s'installent, il y en a quelques-uns qui sont installés.
Il y a des nouveaux praticiens qui... Et la cotation, alors, au niveau sécurité sociale, ça c'est un problème technique, mais c'est important. Parce que si la cotation n'est pas bonne, les praticiens ne viennent pas à la spécialité.
Alors ça, c'est
donc
pas...
de mon temps, c'est une catastrophe. Donc actuellement, vous ne savez pas.
Ce n'est pas complètement... C'est pas une question qui est complètement résolue, puisqu'on ne peut toujours pas coter à la fois un acte technique et un acte de consultation. Donc nous, on cote tout pour les statistiques, mais on sait que l'hôpital n'est rémunéré que sur la base de la consultation médicale.
Je vous explique. Quand on cote, on peut coter par un C pour un généraliste, donc c'est une consultation. C'est un acte intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut faire un diagnostic, une prescription, mais ça peut être qu'un diagnostic. Hein, bon. Par contre, en acupuncture, si vous plantez des aiguilles, vous ne pouvez coter qu'un acte technique avec une formulation, mais ça ne vous intéresse pas, mais qui n'est pas de même niveau que la consultation, qui est presque la moitié, quoi. Hein. Donc les médecins ont tendance à être réticents. Alors ils cotent en C, mais c'est pas reconnu, donc il y a des conflits. Donc c'est un peu. Alors ça c'est un frein, mais je fais un appel qui sera pas du tout entendu parce qu'il a jamais été entendu, mais aux dirigeants et aux syndicats par rapport à l'acupuncture. Alors, quels sont les principaux motifs de consultation des patients qui vous sont adressés ? Alors, dans les autres émissions, on a fait les indications, mais là, les patients viennent vous voir en gros pourquoi ?
Chez nous spécifiquement, donc j'ai beaucoup de douleurs chroniques, ça reste très présent. On a fait un travail de recherche qui s'appelait AcuBrain. On a travaillé sur en partenariat avec les neurologues et les spécialistes de la douleur sur la migraine. Donc, on a conservé, si vous voulez, un petit peu ce canal, ce réseau. Donc, on travaille beaucoup sur les céphalées chroniques, douleurs neuropathiques, douleurs musculo-squelettiques. Et puis, aujourd'hui, je l'estime à peu près, un tiers de notre activité relève des soins de support avec des patients directement adressés par le centre anti-cancer.
Ça, c'est très important pour
donc,
vous.
Voilà.
Et c'est important pour les patients aussi, à faire.
Et là aussi, on a du mal à répondre à toute la demande. Donc, au départ, on s'était donné l'objectif parce que elle regroupe le plus d'indications bien validées, c'est les cancer du sein chez les femmes. Donc on a une population importante de femmes qui ont eu un cancer du sein.
Alors j'avais une autre question, c'est avec quel service hospitalier travaillez-vous le plus fréquemment? Vous y avez répondu, hein?
Oui.
Donc on ne va pas y revenir, mais c'est suivant les indications quand même, et peut-être que les services n'ont pas de connaissance des indications, hein, donc l'émission peut servir peut-être aussi à quelque chose. Alors, vous l'avez dit, mais est-ce qu'on ne peut pas le redire, comment s'organise le parcours d'un patient au sein de votre établissement? Donc, il a sa lettre de médecin, il prend contact avec le secrétariat, donc je pense qu'il doit y avoir un staff du lundi matin où vous recevez les lettres de la semaine, vous jugez l'importance,
la réalité, etc.
Après, vous informez le patient. Si le patient vous dit « je veux aller dans la lune par acupuncture », vous dites « vous êtes non, on ne peut pas vous prendre parce qu'on va perdre du temps et c'est inutile ». Et puis, vous allez contacter le patient, vous allez prendre rendez-vous, il va venir. Et après, vous avez la consultation, vous nous avez décrit un peu. Et donc, il y a cette prise en charge.
Tout à fait, on essaie de sélectionner les patients sur le degré d'urgence de la demande, savoir si on peut le soulager aussi, si l'indication est bonne,
et que
le patient souffre. Alors, on va essayer de répondre d'autant plus vite. Et après, après la démarche, hein, une fois que le patient a son rendez-vous, donc on a cette consultation qu'on avait décrite la dernière fois, cette consultation médicale complète, initiation des soins. La plupart du temps, on a le temps de commencer les soins dès le premier rendez-vous. Et ensuite, en fonction de l'indication, on va proposer un suivi de, comme vous l'aviez rappelé, c'est pas une séance, une série de séances sur lesquelles on va.
En général, vous faites combien de séances ?
J'essaie de travailler sur une série au minimum de 3 ou 4 séances très rapprochées, c'est-à-dire au maximum une par semaine, pas plus espacées,
ouais.
Pour essayer d'enclencher un effet, voir quels bénéfices on a sur l'action immédiate, pour ensuite estimer ce qu'on va faire dans le suivi prolongé. Un exemple typique, c'est par exemple les femmes qui sont sous hormonothérapie avec les douleurs articulaires. Elles répondent souvent assez bien à la méthode, parfois très bien. On cherche ce soulagement rapide et après, en fonction de leur réponse, je vais commencer à espacer les séances pour voir comment j'arrive à maintenir un bénéfice sur le temps long.
D'accord. Alors, globalement, votre ressenti, pas forcément des statistiques, mais quels résultats ou retours observez-vous chez les patients pris en charge? Est-ce que la majeure partie sont ou mécontents ou contents et reviennent
On a globalement des patients satisfaits parce que, comme on le disait, l'acupuncture est une technique de soins global. Donc, dans une situation complexe, mêlant maladie organique, maladie fonctionnelle, il est très rare qu'on n'ait pas quelque chose qui s'améliore, si vous voulez. Donc souvent, ils parlent d'amélioration globale, ça veut dire que chez celui-là, on a peut-être amélioré les troubles fonctionnels digestifs, chez celui-là, on a amélioré le sommeil.
Voilà, c'est ça.
Et donc, si on met tout ça bout à bout, on a globalement des patients qui rapportent un bénéfice, et donc très souvent, une satisfaction.
Alors, quels sont les projets de développement? Vous en avez parlé un peu, et les perspectives pour l'unité dans les années à venir?
Écoutez, déjà, c'est consolider nos liens avec les services qui collaborent avec nous. Il y a le développement de la recherche. Donc, je vous disais à la dernière émission, on a encore eu un nouveau budget.
Quand on a un budget, c'est bien.
Oui, c'est le plus dur pour nous. Donc, on a une étude qui s'est terminée. On est en train d'analyser les résultats. On en a une qui est une étude nationale à laquelle on participe, qui est l'étude Acupox. Donc, on est en train de participer avec plus d'une dizaine de centres en France. On a un nouveau financement pour acupuncture et sommeil. Donc, on continue à développer la recherche et puis bien sûr toujours renforcer l'enseignement et toujours faire du service un lieu central pour la formation.
Donc les stages de l'enseignement se font dans votre service?
Alors ils peuvent se faire avec des maîtres de stage qui sont dans d'autres structures, en ville et aussi d'autres, on a quelques collègues qui sont aussi dans des structures, mais ça reste quand même un lieu assez central pour les étudiants. Oui.
D'accord, très bien. Et alors, comment aimeriez-vous conclure cette série d'émissions?
Peut-être juste un mot. Donc l'acupuncture, ce qu'on a dit, c'est pas une méthode miracle, c'est pas une méthode alternative. Donc nous, l'acupuncture, c'est une thérapie complémentaire et elle trouve sa place lorsqu'elle est pratiquée donc par des professionnels bien formés et quand elle est intégrée à une démarche médicale rigoureuse. Et donc l'évaluation médicale, elle est fondamentale pour savoir si on donne une place correcte à la technique, si on ne fait pas perdre de chance au patient, c'est-à-dire ne pas faire la technique alors qu'il faudrait qu'il fasse autre chose.
Ça, c'est important, vous avez raison d'insister.
Donc tout ça, c'est l'aspect, la rigueur à laquelle on se doit. Et donc, notre objectif général reste toujours le même, c'est démarche globale, amélioration globale de la santé à différents niveaux, que ce soit psychique, physique.
Voilà. C'est bien. Mais on vous souhaite bonne route. On vous remercie encore pour tout le bien que vous faites aux patients. Et merci pour eux, merci à vous.
Merci pour votre accueil, merci.
Merci. Marc Fréard, je vous remercie de nous avoir tant appris sur votre unité hein, d'acupuncture. Merci de votre présence, merci infiniment à vous et bonne continuation hein, donc de pratique de l'acupuncture. Merci à vous. J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. J'ai demandé à Marc Fréard de nous citer encore un livre. Les deux précédents des émissions étaient très pertinents, un livre sur l'histoire de l'acupuncture qu'il affectionne ou sur notre sujet.
Je vous citerai le dernier sur un accès, une introduction au grand livre de la pensée chinoise qui est, je conseillerais, Les rouages du Yijing de Cyril Javary. C'est-à-dire, le Yijing, c'est le grand livre de la pensée du yin et du yang, hein, le grand livre classique de la pensée chinoise. Et donc, c'est un tout petit livre, juste pour voir passer de l'aspect un petit peu, d'un aspect un peu abstrait à comment on applique la pensée chinoise
Et puis,
au
si
quotidien.
jamais en lisant ce livre on a mal de tête, on sait où s'adresser.
Ouais.
Et merci beaucoup à vous. Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel et toute l'équipe de Radio Alliance Plus. Je vous renouvelle aussi mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé en trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.